Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons ouvrir notre Bible et je vous propose deux lectures pour situer notre méditation, notre réflexion ce soir. La première, eh bien, elle se situe dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 25. Jésus nous provoque à la réflexion sur un sujet qui est toujours d'actualité. Avec quoi remplissons-nous notre vie ? Alors, c'est un propos qui mérite d'être pensé. Qu'est-ce que nous mettons dans notre vie ? Alors, c'est sûr que ça passe par notre cœur, ensuite par nos pensées, et puis ensuite, eh bien voilà, nous vivons ce que nous avons déterminé, ce que nous avons pensé, être bon. Parce que je pense qu'il y a certainement très peu de personnes qui pensent, en faisant des choix, que ce qu'ils vont faire, c'est pour se faire du mal à eux-mêmes. Enfin, ça peut arriver. Mais dans le principe, il y a toujours, un souhait ou un désir, de s'apporter du confort ou du bonheur, parce que c'est le mot. Alors voilà, donc Jésus nous en parle. Ce sera le texte de référence et ensuite nous verrons l'exemple dans l'Ancien Testament. Donc, je rappelle Matthieu chapitre 16, verset 25. Et voici les propos. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Ça commence bien. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera ou la retrouvera. Et il ajoute ses propos, il ajoute ses paroles, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez familier dans les enseignements de Jésus. Et nous avions défini comme introduction avec quoi remplissons-nous notre vie. Et je crois qu'il y a des choses qui sont indifférentes et qui ne font pas de mal, qui sont là tout à fait dans l'humanité, la vie des hommes. Mais il y en a d'autres qui sont peut-être beaucoup plus subtil, et on ne peut juger dans nos choix qu'à la fin, à la phase terminale. On peut dire, j'ai pris telle décision, je me suis aperçu, et je peux le dire aujourd'hui, que les engagements que j'ai pris sont des bons engagements parce que j'étais heureux, parce que ça m'a apporté beaucoup d'expériences positives, et parce que j'étais aussi, quelque part en bénédiction aux autres. Et puis, il y a des expériences qui sont tout à fait à l'inverse de ce que je viens d'affirmer, où nous pouvons regretter amèrement d'avoir pris ce chemin, d'avoir fait ce choix, de s'être déterminé pour tel ou tel objet, ou chose, ou personne peut-être. Et on se dit, mais maintenant, comment m'en sortir ? Ou comment me libérer d'une telle situation ? Alors, il y a... C'est vrai, des choix qui n'engagent pas très très loin et qui sont peut-être de petite durée de peine, mais il y en a d'autres, c'est toute la vie. Et c'est à vous maintenant, naturellement, d'y ajouter ce que vous voudrez dans les choix essentiels de nos vies. Mais Jésus a raison, parce que quelquefois dans nos désirs et nos aspirations, nous pensons sauver notre vie. Nous disons, c'est la meilleure part, c'est le meilleur choix, c'est la meilleure proposition, et je pense qu'avec ça, je vais réussir. Parce que c'est toujours derrière cette notion de réussite et de fuir les échecs. Or, il y a des choix que nous avons faits pour réussir et qui se sont avérés des échecs. Et il y a parfois des situations beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles de premier abord, et qui nous ont amené une véritable bénédiction, parce que nous avons persévéré, et nous avons certainement vu que les conseils que Jésus nous donne ce soir, que nous sommes en train de de revisiter, eh bien, il a tout à fait raison, parce que le terme est bien là, hein. Il est dit, mais celui qui voudra sauver sa vie, il va la perdre, ou les choix qu'ils feront vont le perdre, vont l'amener dans des complexités, dans des complications, dans un labyrinthe, peut-être de peine et de souffrance, de perplexité, en disant, mais je ne comprends plus. Et à l'inverse, et il y vient spécifier un petit rajout que Jésus fait, car il est dit ceci, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, et il ajoute, à cause de moi. Alors, à cause de Jésus, pouvons-nous faire des choix? À cause de Jésus, pouvons-nous remplir notre vie? Et avec quoi? Jésus va nous permettre de remplir notre vie pour réussir. Parce que le but et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions avoir une vie, disons, en connaissant ce qu'il nous a préparé de bon, et de plus, et qui plus est, de pouvoir finalement, et bien là, identifier celui qui nous a donné cette inspiration ou de prendre ses choix et de pouvoir l'en remercier. Parce que c'est ça. À cause de moi. Et il y a des hommes et des femmes qui se moquent bien, finalement, de ce que peut Jésus, de ce que Dieu peut penser, ce que Jésus peut nous donner comme conseil. Ils en ont absolument rien à faire, ou tout simplement, ils les ignorent royalement, et ils se disent, de toute façon, moi, je m'y arriverai bien tout seul. J'y arriverai par moi-même. Or, on sait très bien que dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui dit, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui peut faire sourire, c'est vrai, peut-être beaucoup de gens, mais à l'usage. Et dans l'expérience que nous pouvons faire, on s'aperçoit que quand on a goûté, eh bien là, à la conduite, à la volonté que Jésus nous exprime pour que nous puissions véritablement la réaliser, c'est toujours le meilleur qui nous arrive. C'est toujours le meilleur. Donc, celui qui veut sauver sa vie, il va la perdre, parce qu'il est tout seul à conduire et à piloter son existence. Et puis, par contre, à cause de moi, parce que vous tenez compte de mes conseils, vous tenez compte de ma parole, vous tenez compte de ce que j'ai mis dans votre cœur pour vous inspirer le meilleur chemin, alors à ce moment-là, à cause de moi, eh bien, vous sauverez votre vie, vous la retrouverez. Alors, on va voir un peu par le détail maintenant, d'ici quelques instants, eh bien, en quoi ça consiste tout ça. Et Jésus va surenchérir et il dira ces mots, mais que servirait-il? Parce que c'est une réflexion. On peut tout avoir dans la vie, selon les possibilités de chacun, selon peut-être le travail, selon, en effet, eh bien, soit l'intelligence, la sagesse des choses. Alors, on peut avoir beaucoup de choses. Et il dit bien, mais que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? C'est vrai. Et quel prix et quelle valeur a l'âme humaine? On revient toujours à la même chose. Parce que on peut remplir notre vie pour notre confort, pour notre bien-être, pour notre épanouissement et de jouir, on pourrait dire matériellement, économiquement, et dans bien d'autres domaines que l'on pourrait multiplier et qui s'ajoutent, eh bien, c'est vrai, mais ça reste notre vie humaine, notre vie matérielle, notre vie professionnelle peut-être, mais le reste. Parce que Jésus fait intervenir une autre dimension supplémentaire, c'est-à-dire que par-delà, eh bien, l'humanité qui nous caractérise tous les uns les autres, il y a une dimension de l'âme. Et au-delà de cette âme, et c'est là où Jésus parle, et c'est de cette manière qu'il parle, eh bien c'est l'esprit. Voilà, l'esprit. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés, tout simplement. Alors, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange? Parce que on peut tout acheter sur la terre, avec naturellement des espèces sonnantes et trébuchantes, et c'est pas ça ce qui va nous rendre heureux. On peut toujours pallier à tous les inconvénients de la vie, à tous les manques, à toutes les dettes, à toutes sortes de choses d'une manière ou d'une autre. Mais par rapport à cette dimension et cette valeur qui est l'âme humaine, c'est-à-dire notre identité, notre entité profonde d'homme créée par Dieu, alors à ce moment-là, qu'est-ce que l'on pourrait donner? Ça ne se négocie pas tout cela. Il n'y a rien à faire. On est dans un autre monde, on est dans une autre dimension. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Et il ajoute, mais car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et je reviens sur la première question, avec quoi remplissons-nous notre existence? Est-ce que notre cœur est vide ou plein de toutes sortes de choses qui sont des valeurs temporaires ou temporelles, ou est-ce que véritablement il y a quelque chose qui est plus important? Nous vivons, mais pourquoi faire? Et quel est le but de notre existence? Tout ça, ce sont des réflexions que nous allons voir et que nous allons tirer dans le livre de l'Ecclésiaste. Si vous voulez bien ouvrir votre Bible, Ecclésiaste, chapitre 1er, alors on va donner par le détail ce qui peut remplir, ou les tentatives, ou les essais que l'on peut faire pour trouver le bonheur, pour trouver l'idéal de la vie, pour trouver véritablement le succès et l'épanouissement. Et le livre de l'Ecclésiaste est là pour nous le dire. Et c'est un homme qui n'est pas des moindres dans l'histoire biblique, c'est le roi Salomon. Alors quand on est roi, je pense qu'on a quand même quelques moyens de pouvoir se donner eh bien, une vie agréable, ou se donner eh bien, là une certaine abondance, d'avoir des amis, de pouvoir répondre eh bien, à tout ce que le cœur désire, le cœur humain, tout ce qu'il désire, en bien et en mal d'ailleurs. Alors, Ecclésiaste, chapitre 1er, excusez-moi, je suis très enroué ce soir, mais vous comprenez quand même? Oui, ça va? Bon, alors, c'est ça la chaleur, hein? Ça sèche. Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 12. Alors, on va lire, c'était un préambule, et après on passera justement à la réflexion, le corps de la réflexion. Il est dit ceci, moi, donc Salomon, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi, et j'ai surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela est aussi la poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Je vous ai dit que c'était le préambule qui va nous introduire maintenant dans les éléments qui, ou non, oui ou non, remplissent la vie d'un homme, dans ses tentatives pour trouver le bonheur. Donc, je rappelle que Salomon a été un roi glorieux, certainement le roi le plus glorieux qui n'ait jamais existé dans le royaume eh bien, d'Israël. Et il était à la tête d'une fortune, il était à la tête d'un royaume, même d'un empire. Et tout cela avait été naturellement eh bien, le don de Dieu. Voilà. Les rois de toute la terre, souvent, ils ont agrandi leur territoire et leur empire en faisant la conquête, en prenant sur les territoires d'autrui, vous comprenez? Bon, ça dure jamais très longtemps, parce qu'à un moment donné, la roue tourne, vous comprenez? Mais en ce qui concerne Salomon, lui, il l'avait reçu par héritage de son père, le roi David, qui était un roi aussi extraordinaire, un homme de Dieu extraordinaire. Il l'avait reçu comme un don de Dieu, tout cela. C'est Dieu qui lui avait donné. Et il était arrivé au summum, finalement, de la splendeur, de la gloire, quand on parle du temple qu'il a fait construire pour Dieu, pour son Dieu. Quand on parle de son palais, quand on parle de sa fortune, quand on parle de ses armées, etc., on se dit, mais il était le roi soleil avant son temps. Et quoique le roi soleil n'était pas toujours très, très rayonnant, c'était plutôt un roi ténébreux. Mais ben, bon, peu importe, je ne voudrais pas avoir d'ennui avec la République. Surtout que c'est la République qui a quand même mis le roi dehors. Mais enfin bon, peu importe, ce sont des petites incartades que je fais, vous voudrez bien m'en pardonner. Donc c'est Salomon dit, mais moi, j'ai eu la possibilité, parce que j'étais roi, de considérer toutes choses qui se font sous le soleil, les bonnes et les mauvaises. J'ai expérimenté la science, j'ai expérimenté la réflexion, j'ai expérimenté la sagesse, mais j'ai vu ce que c'était que la sottise et également eh bien, la folie. Parce qu'il y a tout ça dans le monde. Il y a les deux, le bien et le mal, etc. Et il a dit que finalement, eh bien, il avait surpassé tous ceux qui étaient avant lui, qui avaient certainement réfléchi avant lui, parce que vous ne pouvez pas penser que c'est notre siècle dans lequel nous vivons, que nous avons tout inventé, que nous avons tout découvert. il y a eu déjà avant nous des gens qui, peut-être, ont abouti à des secrets que nous, nous avons perdus. Bon, on est dans un siècle de technologie très avancée, mais bon, peu importe. Et il dira en conclusion, mais je me suis appliqué à connaître finalement tout cela. Et j'ai compris que s'il n'y a pas le principal dans ma vie, s'il n'y a pas le principal dans la vie d'un homme, hier comme aujourd'hui, eh bien, s'il n'y a pas cet essentiel, à ce moment-là, ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est que poursuite, ce n'est que vanité et poursuite du vent. Vanité, tout simplement. Je pense que ça vaut pour le siècle et les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, où il y a une telle consommation. C'est le mot, hein. La consommation, on consomme, nous sommes des consommateurs. Nous ne sommes plus des consomme-acteurs, mais des consommateurs passifs. C'est-à-dire que dès que nous avons les moyens, et quand bien même nous n'aurions pas les moyens, nous pouvons acheter de l'argent pour nous payer ce que nous avons besoin. Vous comprenez, ça s'appelle un crédit. Puis au bout d'un certain temps, vous allez voir qu'on ne va pas vous oublier. Mais toujours est-il que c'était pas dans son temps, ça se faisait peut-être pas de cette manière, mais il a compris que tout cela, eh bien, n'avait qu'une valeur très relative. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, on pourrait le dire à ce propos. On pourrait dire que finalement, eh bien, si nous ne vivons que pour manger, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Mais nous mangeons pour vivre. Hein. On peut le tourner aussi de cette manière, quoi qu'il en soit. Enfin, nous ne faisons pas que ça dans la vie. Hein. On n'est pas tous les jours à table, hein, imaginez-vous un peu. Parce que ça me concerne pas beaucoup, mais enfin, toujours est-il. Poursuite du vent, vanité. Et il dira ces paroles avec beaucoup de sagesse. On a beaucoup de peine. Et pourtant, la sagesse a sa raison d'être. Mais si c'est une sagesse humaine, c'est différent. Par contre, si c'est une sagesse qui nous inspire la pensée de Dieu, le conseil de Dieu, les voies et la volonté de Dieu dans le meilleur, alors à ce moment-là, ce n'est plus une poursuite du vent. C'est ce que Jésus nous enseigne dans le sermon sur la montagne, par exemple. Beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science, augmente finalement, eh bien, sa douleur. Eh oui, vous savez, dans notre monde d'avant-garde, de technologie high-tech et de toutes sortes de choses, on s'aperçoit que nous sommes véritablement égarés sur le rebord du rivage et nous avons devant nous un océan, mais immense et nous ne comprendrons pas tout. L'homme a ce désir de percer les mystères, mais peut-être ceux de la Terre, de son monde matériel, il va comprendre et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont faites, mais dans le monde, la dimension universelle, dans la dimension de ce monde céleste, de ce monde et de ses réalités spirituelles, de ce monde invisible, alors je peux vous dire qu'on ne sait pas grand-chose. Rien du tout. Alors on va voir les recherches de Salomon en essayant de remplir sa vie avec beaucoup de choses. Et la conclusion que nous allons en tirer, que s'il n'y a pas Dieu avec nous, si nous ne l'avons pas associé à notre recherche, c'est du consommable. C'est en quelque sorte des choses dont nous usons, mais qui nous apportent sur le moment une certaine satisfaction, mais qui nous ne laisseront rien, voire peut-être même dans des choix douteux, voire même vides, complètement là, eh bien, sans ressources. Alors, on va prendre le chapitre 2, on va le lire au fur et à mesure. Salomon dit en son cœur, je dis en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici encore une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie à quoi sert-elle? J'aurais résolu dans mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qui est bon pour les fils de l'homme et de faire sous les cieux pendant le nombre de ses jours de leur vie. Voilà. Il avait les moyens. Il était roi dans son palais. Il avait des serviteurs, il avait des servantes, il avait énormément de monde autour de lui, il avait les moyens de se donner, eh bien, la joie et le bonheur dans ces conditions, tout simplement, et il s'est dit, bien, moi je vais me donner des réjouissances. Eh oui. Il s'est dit donc, voilà, je vais aller dans cette dimension parce que je crois que la vie, eh bien, elle n'est faite que de réjouissances. On ne rit pas tous les jours, hein. Non ? Me semble-t-il. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a des gens qui n'ont vraiment pas envie de rire, quoi qu'il en soit. La joie, le rire, et voire même peut-être l'ivresse, pour forcer un peu la joie, Alors, il y en a qui ont le vin triste et d'autres qui ont le vin joyeux. Bon, ça dépend, hein. Ça, c'est comme ça. Mais c'est la réflexion, c'est la base, c'est la racine en quelque sorte. Il se dit, eh bien, écoutez, si véritablement nous arrivons à chasser le malheur, si j'arrive à chasser la peine, la tristesse, le pessimisme de ma vie, c'est ça, hein, je vais y mettre véritablement le maximum, je vais faire en sorte d'être là, à pousser les choses pour que je sois joyeux en permanence, que je puisse rire en permanence. Je veux pas des gens qui pleurent autour de moi, ça m'intéresse pas. Et il dit, je livrerai mon cœur à l'ivresse, si quelquefois, eh bien, les choses ne viennent pas assez vite. Eh oui, remarquez, l'ivresse, c'est quelque chose de traite, hein. C'est quelque chose de subtil et de sournois, parce que il y a toujours une facture à payer, hein, quoi qu'il en soit. Alors, à un moment donné, il en a conclu que c'est encore une vanité. On peut pas rire tous les jours, on peut pas rire toutes les heures, toutes les minutes. Hein. D'ailleurs, faut avoir les occasions. Hein. Puis ça doit être fatigant. Hein. Surtout quand c'est un rire hein, très très fort, hein, ça fait mal au ventre. Je sais pas si ça vous est arrivé. Plus pouvoir vous arrêter, voilà, c'est terrible. Hein. Donc voilà, tout ça. Remarquez, vous savez, c'est un peu l'attitude de notre monde aujourd'hui, avec les humoristes. Vous savez, on essaie de forcer la dose, on essaie de dire, eh bien, réjouis-toi, change d'idée, etc., etc. Mais quelquefois, ce genre d'humour ne va qu'un temps, hein, quand il n'est pas trivial, quand il ne descend pas dans des ténèbres, enfin dans des choses qui sont véritablement plus que vulgaires, voire devenir monstrueuses, et même quelquefois irrespectueuses par rapport aux autres. Eh oui. Et c'est le monde. Vous savez, ça a toujours existé, des gens qui font rire les autres, des humoristes. Hein, le bouffon du roi, dans le temps. Hein, mais je crois que tout cela, eh bien, on est dans ce monde-là aujourd'hui. Si vous avez des émissions entières, hein, émissions de radio ou émissions de télévision qui sont dédiées au rire. Hein, voilà, c'est comme ça. Et puis, mais bon, et Salomon en a conclu qu'après s'être livré au rire, ou à la plaisanterie, aux réjouissances, voire même à l'ivresse, débordant, hein, et déviant, eh bien, on est arrivé à dire, eh bien, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Je peux pas remplir ma vie que de ça. C'est pas possible. Alors, il va passer à autre chose. On va aller un peu plus loin, et il dit après, j'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. Ça, il s'est dit, on a suffisamment ri, maintenant il faut travailler. Voilà, un autre aspect de remplir notre vie, on ne peut pas la remplir uniquement que de la joie et puis des réjouissances. Il s'est dit, bien maintenant, on va faire autre chose. Je vais me mettre à l'ouvrage, et des grands ouvrages, imaginez-vous qu'un roi, il a des capacités d'entreprendre des grands ouvrages. Maintenant, à la différence de nous, c'est nous qui payons pour lui. C'est comme ça, hein. Parce que tous les rois et les présidents, même encore aujourd'hui, hein, ils veulent marquer leur présidence avec un monument, etc., etc. On en a encore aujourd'hui, là. Enfin, c'est le contribuable qui paye, hein. On peut toujours dire, j'ai construit. Mais c'est pas lui qui a payé, hein, quoi qu'il en soit. Prestige et gloire de notre pays, naturellement. Donc, le travail et les grandes réalisations. C'est aussi une des caractéristiques de notre monde d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ne remplissent leur vie qu'avec du travail, avec des occupations, avec des promotions, avec toutes sortes d'investissements où il n'y a plus ni femme ni famille. Parce que toute leur vie a été dirigée dans ces sens. On pourrait dire que ce sont des gens consciencieux. Mais peut-être que cette précipitation en avant cache aussi un autre problème. C'est de peut-être fuir d'autres situations difficiles. Celui qui se lève de bon matin et qui se couche très tard et qui est toujours à son bureau, qui est toujours... Il y a quand même quelque chose. À moins qu'il soit célibataire, à ce moment-là, il gêne personne. Et ce sera le plus grand bonheur de son patron, qui va le payer tant d'heures, mais il en fera le double. C'est très rentable. Ça, c'est sûr. Mais c'est aussi la caractéristique. Et Salomon, lui, s'est dit, eh bien, voilà, on a essayé la première chose. Je vais maintenant me donner, eh bien, les moyens, alors il parle, hein, de bâtir des maisons, quand on voit ce qu'il a fait, je veux planter des vignes, des jardins, des vergers, etc., des arbres fruités. Il a créé des étangs, et puis toutes sortes de choses comme ça. C'était une belle réalisation. Il passait son temps, finalement, sur les plans d'architecture. Et quand c'était fini, il se disait, c'est ma gloire. Alors, tous les pauvres qui avaient travaillé là-dedans, ils étaient de côté, hein. Ils n'étaient même pas invités à l'inauguration, vous vous rendez compte. C'est comme ça que ça se passe, hein. Eh oui, cette précipitation en avant pour fuir, remplir notre vie. Notre vie, elle est multiple. La joie, c'est pas mal. Le travail, c'est pas mal non plus. Heureusement d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que l'on ferait, hein? Ça fait partie du plan créationnel de Dieu que l'homme va travailler. C'est normal. Et c'est terrible de ne pas travailler. Ceux qui tournent en rond, là, arriver à 50 ou plus ou moins, et de dire, eh bien voilà, qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie? Parce que moi, j'ai envie de travailler, mais j'ai pas de travail. Donc, Salomon avait réfléchi les grandes réalisations humaines. Et puis, il avait de bonnes intentions. Parce qu'il s'est dit, j'achetais les serviteurs et les servantes. C'est-à-dire que, on peut dire, j'achetais, c'est un mot qui s'inscrit dans l'Antiquité. Mais ça voulait dire que Salomon, eh bien, était devenu le premier employeur du royaume. Et c'était bien dans un certain sens. Quelque part, il démontrait son altruisme, son philanthropisme, nous pourrions dire, ou encore son humanisme, en disant, ben voilà, ce que j'ai, je vais le partager. Je vais faire travailler les gens. Je vais les associer à mes grandes réalisations, à mes grands projets. Et il n'y a rien de mieux que ça, c'était un homme d'affaires. C'était un super employeur, naturellement. Alors il le dit, j'achetais des serviteurs, j'ai des enfants dans leur maison, qui sont devenus aussi, eh bien, en quelque sorte, mes serviteurs et mes servantes. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Eh oui, il n'était pas resté inactif. Il avait donné la prospérité. Il avait réussi dans la vie. C'était certainement, plus qu'il était roi, il était aussi un formidable chef d'entreprise. Il avait donné une bénédiction, il avait amené une bénédiction. Mais c'est un peu aussi ce que nous voyons dans notre monde, hein. Les gens qui réussissent, les gens qui vont créer de l'emploi, créer du travail, donner du pain, on pourrait dire, si on voulait réduire un peu les choses, eh bien à tous ceux là qui sont autour de nous, naturellement. Quand on voit un peu tous ces gens qui viennent de tous les pays et qui sont malheureux parce qu'ils fuient dans leur pays, parce qu'il n'y a plus rien à y faire, et qu'ils viennent ici, on leur dit « Non, non, c'est fermé, hein, c'est pas pour vous. Hein. » C'est terrible, hein, de vivre ça. Et tous ceux qui meurent en cours de route. Hein. Ben Salomon, lui, il avait trouvé la solution. Il avait dit « Ben voilà, hein, ils vont faire de grandes choses, etc. Ils vont faire pour moi, naturellement. » Alors ça, c'est son humanisme. Et puis, il va spécifier une chose. « J'amassais de l'argent et de l'or. » Et des richesses des rois et des provinces. Voilà. Il parle de la fortune. Et de l'argent. Et j'introduis tout de suite cette petite pensée. Vous savez que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il y contribue. Mais il ne fait pas le bonheur. Il y a énormément de gens qui réussissent. Qui, je suppose honnêtement, eh bien, parviennent à une stature de fortune, et qui quelque part sont profondément malheureux. On le montre assez souvent dans les médias, hein, chanteur ou tel artiste ou tel homme d'entreprise a tout sacrifié finalement pour ses affaires, comme Salomon, on en parlait il y a un instant, et qui quelque part va passer à côté des vraies réalités les plus simples peut-être, d'avoir une femme, ou d'avoir des enfants, d'avoir une famille, c'est ça, hein. Ce sont des plaisirs qui sont suaves, qui sont bons. Ah, bien sûr, ça n'enchante pas tout le monde, parce que quelquefois pour d'autres, c'est véritablement dans le changement qu'ils vont trouver un peu le... On y arrive, là. Donc l'argent, la fortune, et le pouvoir aussi, parce que si vous avez de l'argent, vous avez du pouvoir. Je regardais dernièrement un reportage sur... les États arabes unis. Là, j'enlève mes lunettes. Parce que, dites donc, c'est quelque chose. Ils détiennent pratiquement toutes les fortunes du monde. Les États-Unis, la Russie, etc., etc. Je voudrais pas dire qu'ils sont pauvres. Mais à côté. C'est incroyable, hein. Il y a 80% d'émigrants. Mais des émigrants de chez nous, hein. C'est nous qui allons là-bas pour faire le... Et ils sont 20% maintenant, ils ont peur finalement, eh bien, ce soit les étrangers qui renversent la population. Parce qu'ils sont 20%, il y a 80% de gens qui sont des hommes d'affaires et des, enfin, des gens de, oui, c'est ça, dans les affaires, etc., etc. Wow, quand on voit ça, et il y a seulement un siècle, c'est intéressant, ils étaient éleveurs de chameaux, ils étaient tous bédouins dans le désert. Regardez donc dans votre jardin s'il n'y a pas un peu de pétrole, ça pourra vous rendre service. Non mais je vous dis ça, moi j'ai pas de jardin. C'est-à-dire que si je creuse, c'est sur ma terrasse, je tombe chez le voisin, il va pas être heureux. Alors, donc, l'argent, la fortune, le pouvoir, il a essayé ça, il s'est dit, mais je vais être heureux avec ça. Puis non, à un moment donné, on va le voir à la fin, on essaiera de tout conclure avec ses expériences. Je m'achetais de l'argent et de l'or, etc., etc. Alors, il poursuit, je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Combien il a eu de femmes, Salomon? Allez, il n'y a rien à gagner, hein, mais bon, je vous demande quand même. Oui, il avait 800, hein. Bah, dites donc. Il fallait que la maison soit grande. 800 femmes. Alors, il avait des reines, hein. Il en a eu, comme ça. Et puis après, il avait des concubines. Et après, il avait, bon, bah voilà, Eh oui. Mais vous savez que ça, c'est les plaisirs du monde sensuel. Eh oui. On a parlé de la joie, des réjouissances. On a parlé du travail et des grandes résidations humaines. On a parlé de cet humanisme qui devait le caractériser. Il cherchait le bonheur dans cela. On a parlé de la fortune et de l'argent. Et là, maintenant, le texte nous suggère que Salomon a recherché le bonheur. Alors, c'était plus de la sagesse, c'était de la folie, hein. A recherché l'aboutissement est de remplir sa vie avec les plaisirs sensuels. Je crois que le monde n'a pas changé, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens, ils sont malades. Eh oui. Et ça va dans tous les sens. Hein. Homme, femme, femme, homme et tout ce que voudrait. Hein. Eh oui. Et on est dans une société où c'est plus satisfaire finalement les besoins les plus naturels, c'est le plaisir aujourd'hui. Le plaisir, on ne vit que pour le plaisir. Quand vous regardez finalement les informations, vous verrez, surtout pendant cette période d'été, le mot, je comptais, parce que quand je regarde la télévision, je réfléchis un petit peu quand même, hein, ça m'arrive, et de ne pas gober les choses comme ça, et le mot plaisir est revenu, je ne sais pas combien de fois, plaisir de la plage, plaisir, il y a des plaisirs qui sont bons, hein, il y a des plaisirs qui sont innocents, il y a des plaisirs, mais je veux dire que aujourd'hui nous vivons que pour le plaisir. Voilà. Se donner du plaisir, se procurer du plaisir, il n'est jamais gratuit, mais néanmoins c'est ça. C'est ça le gros problème. Et on sait que Salomon s'est quand même illustré à travers cette vie-là. Et il est dit, je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. La grandeur, le prestige et la réputation. Et les gens, finalement, qui vont remplir leur vie pour arriver au sommet d'une manière ou d'une autre. C'est pas seulement la politique, mais peut-être ça peut être le showbiz, hein. Ça peut être dans bien d'autres domaines de la vie humaine, mais être grand, avoir du prestige, avoir du rayonnement, avoir finalement de la réputation. Lui, il avait tout ça. Il a essayé tout ça, on l'a vu, hein, à travers ce que nous avons balayé un petit peu ce chapitre. Et il dira ceci, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Ça veut dire tellement de choses, tout ça. Les yeux et le cœur. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Il en arrive à dire, c'est vrai, je me suis vraiment satisfait. Je me suis véritablement, bien amusé. J'ai bien travaillé. J'ai réussi, j'ai eu du succès, et il en arrive à cette conclusion en disant, ça c'est la part. C'est la part qui m'en est revenue. Puis, et le petit mot, ce petit mot puis, il a réfléchi. J'ai considéré tous les ouvrages de mes mains avaient fait, la peine que j'avais prise, parce qu'il s'est quand même donné de la peine, et voici, il déclare à qui veut l'entendre, à travers tous les temps, tous les siècles, et nous ce soir, il nous dit, mais tout est vanité des vanités et poursuite du vent. Donc ça sert à quoi de vivre? On peut remplir jusqu'à déborder de toutes les choses que la vie peut nous offrir, mais il manque quelque chose. Ça ne veut pas dire que tout ce que nous avons vu est mauvais. Il y a des choses bonnes, il y avait des choses mauvaises aussi. Parce que c'est surtout l'usage que nous en faisons. C'est ça la question. L'apôtre Paul dit « usez de tout, tout ». Oui, mais c'est la manière dont nous envisageons les choses. Qu'est-ce que nous voulons faire? Et dans quelle destination nous donnons? Quelle destination nous donnons à ces choses? Tout cela est poursuit du vent et il n'y a aucun avantage de ce qui se fait sous le soleil. Et le mot avantage est intéressant. Parce qu'il faut savoir pourquoi c'est avantageux. Est-ce que c'est avantageux pour la terre? Oui, quand c'est bien. Mais est-ce que nous vivons et que nous avons pour cette dimension de la terre? Parce que quand nous serons au ciel, ce sera tout à fait différent. Ah oui, ce ne sera pas le même monde. On ne reconnaîtra rien à rien de ce qui se fait sur la terre. Et pourtant, Dieu nous donne des joies. Il nous donne aussi la satisfaction de travailler. Il nous donne l'argent dont nous avons besoin, pas plus qu'il faut, hein, parce qu'on en perdrait la tête. Il nous donne d'avoir les plaisirs, finalement, de la vie humaine. Il n'y a aucun problème. Il nous donne peut-être aussi certaines responsabilités, certaines élévations, peut-être par rapport aux autres, pour que nous restions, que nous ne tombions pas dans l'orgueil. Tout ça, il peut y avoir des bonnes choses. Maintenant, l'homme est fait de cette manière qu'il demeure pécheur, et que très souvent, et trop souvent, et à chaque fois, c'est même pas souvent, c'est à chaque fois, c'est qu'il y a toujours un détournement du bien vers le mal. Et pour cela, il faut véritablement qu'il y ait une prise de position, et c'est ce que nous montre à la suite. Je vais simplement le lire, hein. On va pas aller beaucoup plus loin. Cette réflexion, Salomon en tire que c'est une vie égoïste, une vie égocentriste. À quoi sert-elle? Elle me sert à moi, c'est vrai. Elle peut avoir des conséquences et des répercussions bénéfiques sur les autres, c'est vrai. Mais c'est l'ego, égocentrique. Et c'est le problème. Parce qu'il ne faut pas, et je le disais encore vendredi soir, il ne faut pas confondre entre les buts de la vie et les moyens de la vie. Or, Salomon nous parle des moyens de vivre. Une vie heureuse ou malheureuse, mais une vie. Alors que Jésus nous parle des buts de l'existence. Ce pourquoi je suis là. Ce à quoi Dieu m'a destiné. Ce que je vais. Où je vais. Or, si Dieu nous a mis dans cette vie, c'est pour que nous en jouissions, sans oublier que c'est lui qui en est le donateur et le dispensateur. Mais néanmoins, cette vie, elle est réservée pour une autre dimension qui n'est pas temporelle, mais qui est éternelle. Et c'est la suite qui nous le dit. En quelque sorte, c'est un bilan de vie. Et il va faire une expérience à ce moment-là, après avoir réfléchi, après avoir considéré, après avoir fait le bilan de son existence, lui, le roi d'Israël, qui pouvait tout avoir et tout vivre, qui était l'idéal du bonheur humain, il va tomber dans le désespoir, figurez-vous. Et on va le voir ici, un instant, verset 12. « Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise, les deux. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le bien sera toujours prôné. Il faut mettre le bien en avant, même s'il y a une réalité qui est celle du mal. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. » Vous avez des yeux à la tête? Non, vous êtes sage. Vous remarquez, on est à peu près fait tous pareil, hein, me semble-t-il. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre la même sœur, c'est vrai, le fou comme le sage, le prudent comme l'imprudent. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi ai-je donc été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est là encore une vanité. Et il y a des gens qui réfléchissent comme ça, puisque de toute façon on va mourir. Vous êtes au courant, non? Une nouvelle que je vous offre. Tous. Bon. Puisque nous allons mourir, il y a deux façons de réfléchir à la question. Puisque nous n'avons qu'une seule vie sur Terre, alors à ce moment-là, cassons la baraque. Faisons n'importe quoi. N'ayons pas de morale. On fait n'importe quoi. Tout ce qui nous tombe sur la main et qui, même si ça dérange l'autre, si ça le gêne ou si ça le détruit, ça n'a pas d'importance pourvu que moi j'en profite. Comprenez? Et puis il y a l'autre. Puisque nous allons l'un et l'autre, nous allons partir, nous allons quitter cette terre, nous disent, mais il y a une autre réalité. Et moi je sais, comme dit Job, dans son livre au chapitre 19, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il y a une autre vie. Ah, c'est ce qui s'est passé pour nous. Oh, nous, on ne savait pas tout ça avant de nous convertir. Mais à partir du moment où nous avons lu la Bible et que Dieu, par son Saint-Esprit, nous a amenés à Jésus-Christ, à croire sa parole, à faire sa volonté, notre vie a été complètement changée. Hein, on tripotait peut-être des choses qu'il ne fallait pas avant, hein. Oui. Mais à partir de ce moment-là, nous avons pris, même si on n'y arrive pas toujours, hein, parce qu'on n'est pas des saints, on peut le dire. Mais on s'est dit maintenant, on prend parti du côté de la lumière. Celui qui nous dit, je suis la lumière du monde, c'est lui qui aussi ne marchera pas dans les ténèbres. On avait déjà suffisamment marché dans les ténèbres, on a compris qu'il fallait être dans l'autre sens. Et j'ai dit en mon cœur que c'est là encore une vanité. Car le témoignage du sage n'est pas plus éternel que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et c'est vrai. Vous savez, on va pas laisser une mémoire impérissable derrière nous. Hein. Vous savez, quand nos enfants vont disparu, nos petits-enfants, voire nos arrière-petits-enfants, qui se souviendra que nous nous appelions, voilà, un tel, ouais. Non? Si, si vous vous appelez Napoléon. Enfin, tout le monde ne peut pas s'appeler Napoléon. Hein. Alors, ça c'est sûr. Ou Louis XIV, enfin, je cite parmi les meilleurs, hein. Parce que je sais pas si on les reverra au paradis, là, ils avaient quand même le sens de l'épée assez, hein, ils étaient très modestes, hein, tous les cas. Alors, et quoi? Le sage mord aussi bien que l'insensé, c'est vrai? Alors, à un moment donné, quand il a considéré tout ça, il a dit, j'ai haï la vie. Il en est arrivé à avoir un dégoût de vivre, de voir tout ce qui se passe. Et que lui, il l'avait pratiqué peut-être aussi, dans une certaine mesure, le mal. En y mettant du bien, c'est vrai, pour tranquilliser sa conscience. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Et il y avait de quoi? Surtout quand on est roi, on est au courant de certaines histoires. Des courtisans, on peut voir un peu le comportement des gens, hein. Car tout est vanité, poursuit Dieu. J'ai haï tout le travail que j'avais fait sous le soleil. Il s'est dit, mais puisque je vais mourir, à quoi ça va servir? Ben oui. Et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont construit des choses, et quand ils ont donné leur succession à leur fils, eh bien tout a été dégringolé en deux temps de mouvement. Les fils à papa, vous savez, vous connaissez, hein. Ah mais c'était très vite, hein. Très long à construire, et très vite à détruire. C'est vrai pour une église aussi, hein. Enfin, je le dis au passage. Cependant, il sera maître de tout mon travail et tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Si nous n'avons que ça dans notre vie, si nous n'avons pas une espérance, si nous n'avons pas une autre dimension, ça ne sert à rien. Je pourrais dire que j'étais le meilleur pasteur que la France n'ait jamais connu. Ça vous fait sourire. Même si je l'étais, et je ne le suis pas, je tiens quand même à le dire, ça ne sert à rien. Vanité et vanité, ça ne sert à rien s'il n'y a pas autre chose. J'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir, vous vous rendez compte, après avoir vécu des choses extraordinaires et formidables humainement parlant, où le monde entier pouvait dire, mais Salomon, il a eu du succès, il a eu une réussite, c'était le plus grand roi de tout Israël, que Israël n'a jamais connu, il en est arrivé au désespoir. Mais quelquefois, il faut arriver au désespoir pour savoir qu'on a besoin de Dieu. Parce que quand tout va bien, on n'a pas besoin. On ne crie pas à Dieu, on n'appelle pas son secours puisqu'on se débrouille tout seul. Au cœur du désespoir, à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse, science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est quand même dommage tout ça. C'est pour ça que les gens ne veulent pas mourir. Surtout ceux qui réussissent. Vous avez remarqué quelquefois les chefs d'État, ça les enquiquine. De mourir. Ah ouais, hein, ben nous aussi un peu, mais bon, c'est très limité, hein, mis à part la famille. Des gens qui ont un grand succès dans le showbiz, par exemple, chanteurs ou autre chose, à un moment donné, ils n'auront plus de public. On ne pourra plus les applaudir. Ils se disent, mais pourquoi ça ne continue pas? Ben oui, c'est comme ça. C'est encore une vanité, un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Vous avez encore envie de vivre? Vous voulez voir ce qui va se passer demain? Parce qu'avec tout ce que je vous ai raconté, j'espère que vous n'avez pas perdu le moral. Hein. Il y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Merci Seigneur de ce que tu me donnes de jouir de ceci et cela. Pour le bonheur, les petits bienfaits que tu me donnes tous les jours, que je remarque, que j'apprécie et dont je te rends grâce. C'est vrai, c'est bon. C'est bien. Mais j'ai vu que cela est aussi, que cela vient de la main de Dieu. Voilà. Parce qu'il a reconnu dans l'ultime réflexion qu'il donne que tout ça vient de la main de Dieu. Pour que l'homme soit reconnaissant, qu'il soit rempli de gratitude en disant « J'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dieu qui m'a donné de le faire. Car c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et là, derrière, s'attache la notion de salut. Je peux vivre tout cela, mais si je suis perdu, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Eh oui, mais nous, nous sommes sauvés. Moi, j'ai la conviction, la certitude que le Seigneur m'a sauvé. Et vous aussi. Et si quelqu'un ne l'avait pas, eh bien qu'il s'approche de Jésus, et il va avoir finalement cette assurance que s'il demande pardon de ses péchés, s'il se convertit à Jésus-Christ, pas à une église, mais à Jésus-Christ, alors à ce moment-là, il deviendra une nouvelle créature. Et sa façon de vivre, sa façon de vivre, sa façon d'être, il pourra consommer, mais il consommera pas en égocentrique ou en égoïste, il consommera les bienfaits de Dieu et il les donnera, il les répandra autour de lui. La joie que Dieu nous donne, elle est faite aussi pour que nous la communiquions aux autres. Le travail que nous faisons, il est aussi pour que ce soit un bienfait pour les autres. Tous les plaisirs de la vie, tout ce que nous pouvons faire, ce n'est pas seulement pour nous. Le premier servi, le premier remercié, c'est le Seigneur, mais aussi également que je sois et que je devienne une source ou une ressource de bénédiction autour de moi. C'est ça justement la richesse du christianisme. Qui, en effet, peut manger et jouir si ce n'est moi, il le dit. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser aussi, de donner à celui qui est agréable à Dieu. Eh oui, tout est là. Vous savez, quand Jésus nous dit, c'est par la première parole que nous avons lue tout à l'heure, que servirait-il à un homme? On a fait un tour, on a vu une réponse dans la Bible, ce qu'on peut en donner en dehors de la Bible, mais celle-ci est biblique, cette réponse. Eh oui, je crois qu'il y a une chose importante, c'est que Dieu soit à la première place. Et d'ailleurs, dans le texte que nous n'avons pas lu, le premier, il nous est dit, mais si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et à ce moment-là, il deviendra mon disciple. Et être disciple de Jésus, c'est véritablement un homme, une femme qui a été sauvé. C'est notre foi qui nous sauve. C'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous croyons. C'est notre foi. Et si notre foi, elle est fixée sur la personne de Jésus, alors à ce moment-là, nous pouvons jouir de toutes les choses bonnes et merveilleuses que Dieu nous a données pour l'en remercier, le bénir et en faire profiter aussi tous les autres. Et c'est véritablement notre satisfaction. À ce moment-là, ce n'est pas une vanité. C'est quelque chose qui sera aussi que nous retrouverons de l'autre côté, parce que sera formée notre personnalité, notre identité de connaître Dieu intimement par l'expérience que nous pouvons en faire de toutes ces grâces et de tous ces bienfaits. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. On va prier quelques instants si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous rappelles des choses essentielles. Celles, en effet, Seigneur, où tu nous le dis d'une manière, en effet, résumée. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est pas le secondaire que nous avons à chercher, mais c'est ce qui est primaire, c'est ce qui est premier, Seigneur. Et ce qui est premier, c'est véritablement, et du ressort, de la dimension, de ce monde invisible, de ce monde éternel, de ce monde céleste. Ça, c'est le premier. Alors nous voulons te rendre grâce. Et te remercier, Seigneur, de ce que tu nous as fait comprendre à travers le message de l'Évangile. Eh bien, que pour garder notre vie, il faut savoir la perdre. Il faut savoir te donner, Seigneur, tout simplement, notre existence, et c'est toi qui vas la remplir. Savant que nous vivons dans un monde où les gens essaient de gaver leur existence de toutes sortes de choses, toutes sortes d'expériences bonnes et mauvaises. Essaie, Seigneur, d'avoir le plus de capacité, de fortune, pour les soustraire aux besoins. Mais Seigneur, s'ils comblent des besoins matériels et physiques ou économiques, une chose qui est certaine, c'est que leur cœur ou leur âme reste vide, désespérément vide. Alors, Seigneur, tu nous donnes de remettre les choses dans le bon endroit. La priorité, Seigneur, à notre vie intérieure, et ensuite vient la vie extérieure, que tu sauras donner pour voir, parce que tu nous rappelles que tu sais que notre Père Céleste sait que nous en avons besoin, et nous n'avons pas besoin de nous en inquiéter de toute façon, puisque c'est déjà donné. Et nous avons simplement à tendre la main de la foi pour nous en saisir, et en profitant, et en profiter, Seigneur, en considérant, Seigneur, la reconnaissance et la gratitude qui t'est due, et nous te bénissons et nous te remercions. Cette parole, elle est belle, comme nous l'avons vue il y a un instant, et tout ça vient de la main de Dieu. Merci, Jésus. Merci pour tes mains qui ont été crucifiées. C'est véritablement, Père éternel, l'invitation à venir auprès de toi et nous réfugier entre tes mains, parce que toi, tu prends soin de notre vie présente, notre vie future, mais aussi de notre vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.